Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'avoir cette occasion de complimenter vraiment sans réserve Benoît Plessis pour le magnifique ouvrage qu'il nous a donné. C'est un ouvrage qui fera date et qui en même temps vient à sa date, dans la mesure où sans doute il n'aurait pas pu être écrit, indépendamment des facteurs personnels sur lesquels je reviendrai, il y a quelques années encore. C'est un ouvrage qui, d'abord, et ça n'est évidemment pas fréquent à aucune période, s'efforce de penser le droit administratif, ce qui, on l'a déjà dit auparavant, mais je voudrais y insister parce que c'est vraiment fondamental, ce qui est une entreprise nécessaire, mais assez souvent négligée, je dirais, par les auteurs. Alors je vais revenir sur la tarte à la crème, manuel ou traité ou autre chose, je dirais... un essai sur le droit administratif français en forme de traité et qui a l'élégance de se donner pour un manuel, dont témoigne, je m'en aperçois seulement maintenant, un M qui est au dos de la couverture. Je souligne que c'est aussi un manuel, effectivement. C'est aussi un manuel parce que, en dépit de son épaisseur, je crois que c'est un des meilleurs moyens pour les étudiants de pénétrer cette matière difficile et spécifique qu'est le droit administratif. La méthode que vous employez est une méthode qui est pédagogique, effectivement, et qui est une méthode qui comporte un certain nombre de répétitions apparentes, mais qui ne sont pas des répétitions, qui sont un approfondissement. C'est comme une figure d'une pente en cylindre que l'on monte, que l'on descend au choix, peu importe d'ailleurs, et où on découvre, on revisite un certain nombre de paysages qu'on avait déjà visités, mais sous un angle tout à fait différent. Exemple type, l'arrêt Blanco. L'arrêt Blanco, il revient un certain nombre de fois, et à chaque fois, on en apprend davantage sur l'arrêt Blanco. Et à chaque fois, le point de vue que vous nous donnez sur l'arrêt Blanco est un point de vue à la fois différent et qui apporte quelque chose et qui enrichit aussi rétrospectivement ce qu'on avait d'abord appris sur lui. Mais évidemment, vous ne vous en tenez pas à l'arrêt Blanco, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez une érudition et une érudition historique qui est extraordinaire et qui ne se donne jamais comme une érudition, c'est-à-dire c'est jamais barbant. C'est jamais une suite de précédents. Alors, il y a quelques coquetteries que j'adore. Par exemple, Blanco, oui, mais aussi un arrêt qui l'a précédé du 25 janvier 1873 qui répond à un nom absolument magnifique qui aurait dû lui valoir à lui seul la postérité en droit administratif. Une décision Planck et Paplard. Je trouve ça absolument extraordinaire comme nom de requérant. Et puis vous ajoutez tout de suite que le Conseil d'État a mis en œuvre Blanco seulement dans un arrêt du 12 juillet 1882, Cordier. Autrement dit, vous savez tout et vous savez tout faire passer comme élément de connaissance, mais sans aucune lourdeur jamais. C'est toujours dit d'une manière extrêmement élégante et par une écriture qui retrace le travail de la pensée. Et c'est très rare, je trouve, spécialement peut-être dans les manuels. D'une certaine manière, ça périme au moins une posture de celui qui écrit un manuel. Du genre, je vais tout vous dire sur la matière. Vous ne prétendez pas tout dire, mais en même temps, vous dites tout parce que vous le dites en pensant la chose. Et je trouve que du coup, ça se lit d'une manière... absolument extraordinaire, parce que facile. C'est un cheminement dans lequel on vous accompagne. C'est un cliché que je vais utiliser, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti comme lecteur. Ça se lit comme un roman. Un roman familial, alors quand on débute pas tout à fait en droit administratif, on retrouve les figures familiales qu'on connaît bien, à la fois dans les décisions, à la fois dans les auteurs, donc... bonjour Duguy, bonjour Auriot et d'autres moins connus, bien entendu, que vous connaissez aussi et que vous avez aussi intégré à votre approche. Charles Eisenman, là, plutôt comme tonton, lointain par rapport, effectivement, à l'auteur, mais aussi pas très apprécié. C'est un peu pour vous, visiblement... le casse-pied dogmatique qui arrive en mettant ses théories en œuvre et qui, au fond, passe à côté de la réalité de la matière. Je n'approuve pas, évidemment, tout à fait cette vision, mais vous le montrez assez bien quand même. C'est vrai qu'il y a un côté, parfois, chez Uncle Charlie, de donneur de leçons, disons, qui peut apparaître... Moi, ça m'enchante, mais je comprends que ça puisse aussi agacer. De même, la querelle entre René Chaput et M. Selleck sur la place respective du service public et de la puissance publique, qui, dans la définition du droit administratif, qui, dans le critère de compétence de la juridiction administrative, vous êtes assez sévère là-dessus. « Vaine querelle théologique », écrivez-vous. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit si vain que ça. Mais je comprends qu'on puisse trouver ça, finalement, une construction un peu vaine. Ça me rappelle le titre d'un film d'Alain René, « La guerre est finie », qui est un film magnifique et je trouve sous-estimé. « La guerre est finie », c'est Yves Montand, militant républicain espagnol, qui passe sa vie à se mettre en danger en franchissant la frontière et qui découvre tout à coup que, au fond, ce pourquoi il a combattu, d'abord, ça n'intéresse plus personne, et ensuite, c'est plus le problème de l'heure. Et René montre ça d'une manière absolument formidable. Et d'un certain côté, je crois que votre manuel, je dirais, liquide une certaine manière de faire du droit administratif. En disant, au fond, bon, toutes ces constructions, services publics, puissance publique, c'est bien gentil, mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en faire un système, parce que le système manque toujours son but, c'est-à-dire décrire d'une manière exacte ce qu'est le contenu du droit positif. Au fond, il y a eu le temps des dictionnaires, vous le montrez, les 3B, comme on dit à propos de Bach, Beethoven et Brahms, Blanche, Bloch, Becquet. Trois dictionnaires qui commencent par B. Bon, ça, c'était l'époque où le droit administratif était vraiment ennuyeux. Vous avez une très belle formule, c'est un tas de feuilles, pas très exaltant, effectivement. Ensuite, il y a eu la période des grandes aventures théoriques, Auriot, Duguy, puis quelques disciples plus ou moins inspirés. Vous montrez très bien que, de toute façon, c'est très outrancier. Plus Duguy qu'Auriot, au fond. Vous montrez, je crois, justement, que chez Duguy, il y a un dogmatisme qui ne correspond pas du tout, sinon pour comme appel politique à penser autrement le droit administratif, mais ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, avec le recul, c'est un peu vain. Auriot, lui, il est plus subtil, parce qu'il change tout le temps, en réalité, d'opinion, même dans son manuel... Vous avez page 220, l'inverse de ce qu'il écrira page 880. Il se souvient peut-être plus très bien de ce qu'il a écrit lui-même. Donc, évidemment, il est moins dogmatique. Et du coup, on peut trouver un peu ce qu'on veut chez Auriot, je dirais. Mais avec une intelligence, évidemment, qui est constante. Et vous montrez ça très bien aussi. Un savoir de généralisation et d'abstraction, dites-vous, du droit administratif. Et puis, il y a surtout... ce que vous indiquez dans votre exposé liminaire, qui est un modèle, vous montrez que vous dites qu'il ne faut pas être dupe du droit positif. Et effectivement, vous n'êtes pas dupe du droit positif, ni d'ailleurs de grand-chose, ce qui fait le charme de cette lecture, parce que vous montrez pourquoi il ne faut pas être dupe des constructions du droit administratif, qui sont des choses assez bancales. Vous citez le mot de bric-à-brac, oui, il y a de ça, bien sûr. C'est assez foutraque, tout ça. Au fond, ça s'est élaboré d'une manière progressive, d'une manière aussi assez accidentelle, en ce sens que ça aurait très bien pu devenir autre chose. Et ça, c'est, je crois, lié au caractère avant tout prétorien de ce droit, le droit essentiellement jurisprudentiel, pour reprendre la citation de Chaput. Dont vous parlez à juste titre. Alors, il y a la dimension historique des choses qui vous permet, je crois, justement, de ne jamais être dupe. C'est qu'au fond, toutes ces nouveautés qu'on nous ressort fièrement de temps en temps, vues avec le regard de l'historien, c'est un peu dérisoire. Et c'est un peu dérisoire, notamment, parce que ça ambitionne de cacher des choses, de mettre des choses sous le tapis. Par exemple, vous le montrez à propos de la régulation, on l'a déjà dit, à propos du droit mou aussi, la soft law, vous montrez très bien que ça ne doit pas dissimuler les effets de pouvoir qu'il y a derrière tout ça, et que ce serait naïf que de croire que maintenant on est dans un monde merveilleux où il n'y a plus de pouvoir, mais où il y a simplement des orientations qui évoquent un peu la tyrannie discrète dont parlait Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. L'enjeu de pouvoir, vous ne l'éludez jamais. Et ça aussi, c'est important. Et c'est d'ailleurs, je pense, que ce qui relie aussi au droit constitutionnel vos constructions. Et c'est une des raisons, me semble-t-il, pour lesquelles vous en voulez un peu à Charles Eisenman de sa déconstruction logique des bases constitutionnelles du droit administratif faites par Vedel. C'est que vous tenez, mais vous le faites beaucoup plus subtilement et beaucoup plus justement que Georges Vedel, vous montrez qu'effectivement, derrière le droit administratif, il y a du droit politique, disons. Il y a une conception du pouvoir, il y a une mise en forme du pouvoir, il y a des enjeux de pouvoir qui sont bien sûr constants. Et ça, vous le montrez admirablement dans votre livre, on va dire, pour éviter de traiter Manuel Essai, votre livre. Il y a une attitude sceptique dans votre ouvrage qui est extraordinairement salutaire parce qu'elle force à penser. Par exemple, citation que j'aime beaucoup, le juriste continental, instruit par 2000 ans d'histoire de Rome, de la papauté, de l'Empire germanique ou des rois de France, sait que le pouvoir ne disparaît jamais. Et effectivement, ça permet de remettre en perspective d'une manière extrêmement juste les modes contemporaines, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de même que les discours didactiques et autoritaires. Un autre aspect très décousu ces propos, mais une autre chose que j'aime dans ce livre, c'est la manière dont vous montrez la réalité vivante du droit administratif. Pierre Maure en a parlé à l'instant aussi. La concrétisation du droit. Le droit administratif, parce qu'il est essentiellement jurisprudentiel, c'est un judge-made law. Donc un droit qui est fait au fil des espèces, que vous racontez, ce qui me paraît essentiel dans le récit qu'est le droit administratif. Vous racontez les espèces auxquelles le juge a été confronté, la manière dont il les a abordées, la manière dont il a résolu la question. Et de ce fait, vous avez une autre qualité, pardonnez-moi Christian Vigouroux, qui n'est pas très répandue, c'est que vous savez être critique, disons sans complaisance, vis-à-vis du Conseil d'État. C'est-à-dire que vous ne donnez pas dans cette assez pénible, au fond, adoration du Conseil d'État, à laquelle se réduisent beaucoup de manuels depuis Gèze au moins. À savoir, vous montrez que de temps en temps, le juge suprême de l'administration n'a pas été si exemplaire que cela. Je ne vais pas revenir sur des choses qui ont déjà été dites. Par exemple, lorsque vous parlez de la résistance au droit communautaire que le Conseil d'État a déployé longtemps, vous montrez qu'au fond, tout ça a été assez insupportable d'inutilité, vu avec le recul, ce qui vous amène à dire que Perreux, c'est un faux grand arrêt, parce que, tout simplement, bon, c'était évident, il n'était que temps, disons, que cette solution-là soit adoptée. Même chose sur la résistance très longtemps du Conseil d'État à la conception qu'a la Cour européenne des droits de l'homme du champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous avez une formule qui me paraît très justement critique à ce propos. Il était temps d'en arriver là, quoi. On a perdu une éternité à des problèmes qui en réalité auraient dû être réglés immédiatement. Et j'aime aussi beaucoup, j'en termine là sur ce point, cette formule à propos de la loi du 30 juin 2000 et la naissance du référé administratif. Vous avez cette très jolie formule. Le Conseil d'État n'étant jamais aussi inventif que lorsqu'il se sent menacé, il s'est enfin résolu à souffler au législateur la nécessité de lui octroyer des procédures d'urgence. Ce qui me paraît là aussi une très belle manière de résumer les choses. Je précise que le livre est aussi donc un manuel en ce qu'il est, il frappe juste à chaque fois. C'est-à-dire qu'il résume de longs débats dans des phrases courtes, dans des phrases, j'allais dire définitives. Non, justement, c'est jamais définitif, mais ça donne à penser d'une manière absolument extraordinaire. Par exemple, sur le Conseil d'État, la formule « il est légiste avant d'être juge », qui me paraît effectivement une clé importante de la manière dont l'institution Conseil d'État s'est à la fois jouée sur le volet consultatif et sur le volet contentieux, légiste avant d'être juge. Il y a effectivement beaucoup de choses qui s'éclairent avec de telles formules. Ou encore, c'est plus cruel, il est moins serviteur de la loi qu'au service du pouvoir, ce qui est vrai globalement, sans doute injuste à propos de telle ou telle solution et de telle ou telle jurisprudence, mais disons qui est vrai si on envisage le pouvoir, je dirais, d'une manière qui est située au-dessus, disons, de l'observation partisane et de choses comme ça. Il est évident que le Conseil d'État n'est jamais partisan, mais il est dans une logique, et il peut difficilement en être autrement sans doute, mais il est très largement dans une logique qui est celle du pouvoir. Vous le montrez à propos d'un tas de problèmes, du service public par exemple, de la possibilité, des conditions de licéité d'un service public communal à l'époque dite du socialisme municipal, etc. Vous montrez très bien comment le Conseil d'État a su adopter des attitudes qui en même temps essayent de résister sur certains points au pouvoir, mais qui très rapidement en viennent à adapter les jurisprudences sans en avoir l'air, c'est-à-dire sans capituler en rase campagne, sans le dire explicitement, mais en réalité, derrière la façade conservée des formules, il y a bien un ralliement aux nécessités de l'heure. Vous montrez aussi très bien une chose qu'on ne montre pas tellement souvent quand on est administrativiste, qui est, je dirais, la dimension imaginaire du droit administratif. On y a déjà, ça et là, fait des allusions. Vous analysez justement la manière dont, certes, on utilise l'ère révolutionnaire français, mais surtout dont on le déforme en l'utilisant. Alors, vous le montrez à propos des conclusions de David sur Blanco. On apprend, entre parenthèses, j'ai appris en tout cas, à cette occasion, que David était prénommé Edmond. C'est assez rare que son prénom soit, sauf erreur, mentionné. En tout cas, je n'avais jamais réalisé qu'il s'appelait Edmond David. Donc, vous montrez ça très bien, la manipulation, en réalité, des textes révolutionnaires au service d'une démonstration qui est une démonstration stratégique, au service, là encore, disons, pour faire un peu gros, de l'institution Conseil d'État. Certes, on est devant le tribunal des conflits, mais justement, il s'agit de séduire et de convaincre le tribunal des conflits. Dans Blanco, il y faut l'intervention du garde des Sceaux pour vider le partage. Pas dans Pelletier. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, cette différence des perspectives de David dans Pelletier et dans Blanco. On sent que dans Pelletier, au fond, c'est la panique avec le décret 1870. Il faut absolument sauver les meubles, notamment sauver la construction qu'on vient de faire dans l'arrêt Blanco. Pour que ça ait un avenir, il faut désamorcer le décret de 1870 et dire qu'il ne porte pas atteinte à l'essentiel, c'est-à-dire au jeu du principe de séparation. Quand on relit les conclusions de David, il essaye de sauver, et vous en parlez d'ailleurs très bien, il essaye de sauver la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître de la légalité des actes administratifs. Et puis après, c'est une fois que l'essentiel a été sauvé, il s'agit d'éviter que le juge judiciaire ne porte un regard sur la manière dont le service public a fonctionné. Enfin, tout ça, vous le montrez très bien. Il s'agit de mythes, il s'agit de récits légendaires que l'on visite grâce à vous dans les différentes étapes de construction du récit mythique, avec de très belles phrases. Depuis lors, écrivez-vous, cette interprétation de la séparation des pouvoirs s'est fermement enracinée dans les esprits. C'est le propre du récit légendaire d'être une croyance répandue, mais peut-être aussi une fable. Et vous montrez très bien ce travail imaginaire, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous êtes très sceptique face à ceux qui essaient de déboulonner les mythes. Pierre Sandevoix, Michel Tropper, Jacques Chevalier, de leur analyse de l'origine exacte du principe de séparation des pouvoirs, où il montre, par exemple, Michel Tropper, dans son livre, dans sa thèse sur la séparation des pouvoirs, il montre très bien que tout ça ne tient pas et que ça n'est pas véritablement la loi des 16 et 24 août 1790 qui est l'origine. Au fond, ça vous impatiente un peu parce qu'on a l'impression que pour vous, ce n'est pas le problème. En toute hypothèse, ça a fonctionné comme un mythe. Et donc, il n'y a que ça qui compte. Vous prenez la dimension historique du droit administratif que vous maîtrisez admirablement, y compris dans des éléments qui sont très peu connus en définitive. Vous le montrez et vous faites avec, j'allais dire. C'est une réalité. En quoi vous êtes positiviste, mais c'est une réalité qu'il est vain de critiquer au nom de système, parce que de toute façon, ces systèmes-là ne collent pas. Ils sont trop... Alors ça vous donne une posture, je dirais, assez particulière, parce que vous êtes hyper théoricien, et en même temps, on a l'impression que vous n'aimez pas la théorie quand on vous lit. À chaque fois qu'on a un système qui essaye de se construire, y compris chez les plus grands auteurs, vous montrez, vous êtes un peu Eisenmanien quand même en cela, vous montrez que ça ne tient pas. C'est-à-dire que ça ne rend en aucun cas compte de la réalité de ce qu'est cet objet sur lequel nous nous penchons, qui est le droit administratif, qui est un discours, qui est une construction jurisprudentielle. Alors vous montrez aussi le rôle du Conseil d'État dans cette construction, la manière dont depuis au moins la chronique de jurisprudence de la JDA, ce qui commence à dater historiquement, le Conseil d'État a pris en charge la présentation de son propre travail, et la doctrine universitaire en a été, je crois, très appauvrie, parce qu'elle s'est sentie un peu en porte-à-faux par rapport à cela. Elle n'a plus beaucoup de révélations à apporter par rapport à ce qu'est la jurisprudence. Et du coup, elle a eu un peu de mal à se positionner par rapport à cela. Et vous remettez très remarquablement, je trouve, les pendules à l'heure. Il ne faut pas être dupe, il ne faut pas s'illusionner sur l'efficacité des théories. Par exemple, vous écrivez « Le juge administratif a-t-il une théorie de l'interprétation ?» Mais chacun sait bien que la réalité ne se retrouve pas nécessairement dans ses spéculations philosophiques ou ses expériences de laboratoire. Vous désignez là les théories de l'interprétation. Ce n'est pas comme ça, au fond, que les choses fonctionnent, que le juge élabore le droit administratif avec le concours plus ou moins lointain de la doctrine. Vous montrez aussi, bien sûr, mais là, c'est, j'allais dire, plus banal, non, mais c'est, vous n'êtes pas le seul sur ce point. Vous montrez qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on ne peut plus faire aujourd'hui du droit administratif sans faire du droit constitutionnel, sans faire la théorie du droit, ça c'est pas nouveau, mais sans faire aussi du droit de l'Union européenne et du droit de la Convention européenne des droits de l'homme, entre autres. Évidemment qu'on ne peut pas isoler tout cela et qu'aujourd'hui... Moi, mais sans doute c'est parce que je suis français, ces allusions au souverain et cette construction du droit administratif à partir de textes constitutionnels que vous citez à de très nombreuses reprises dans des occurrences historiques qu'on néglige un peu. Au fond, on se borne à 1789, 1946 et encore, avec réticence, et 1958, et puis c'est tout. Et vous avez le mérite aussi de citer très longuement parfois des textes de l'an 3, de l'an 8, des constitutions, des chartes, des deux chartes, pour montrer qu'il y a un travail qui continue dans l'histoire avec ses ruptures, mais aussi avec ses continuités. Je voudrais aussi saluer la qualité de votre écriture, qui est rare et qui s'accompagne d'humour. On en a eu quelques illustrations. Vous parlez enfin, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais le temps est expiré, vous parlez du caractère circonstancié et contingent du droit administratif, qui nous ramène une fois encore à ce caractère essentiellement prétorien. Et ça, vous êtes vraiment un des meilleurs pour le montrer, en étudiant les arrêts d'une manière très détaillée, etc. Alors, j'ai une interrogation quand même sur laquelle je voudrais conclure. C'est que, ça a déjà été noté au passage par Christian Vigouroux, on a l'impression que le droit de la responsabilité ne vous intéresse pas beaucoup. Au fond, il est réduit à très peu de choses dans votre livre. Il y a le principe de l'égalité, le principe de responsabilité comme élément de libéralisation d'un droit qui menaçait sans cela d'être autoritaire. Mais vous passez extrêmement vite. On a presque l'impression que la responsabilité sans faute n'existe pas pour vous, que la distinction faute simple, faute lourde n'est pas très importante. Bon, elle l'est peut-être plus parce qu'elle a été dissoute, mais au terme d'un travail historique dont on s'étonne qu'il ne vous ait pas intéressé. Donc je trouve que vous passez très vite là-dessus. Et c'est bizarre que, avec un livre qui fait 1500 pages, il y ait à peu près quoi, de mémoire, une dizaine de pages sur la responsabilité, pas davantage, alors que c'est quand même un des grands chapitres du droit administratif général. Mais en tout cas, je veux vraiment redire, en concluant, une très grande admiration pour le travail intellectuel formidable que vous avez fait et qui, encore une fois, constitue une étape qui sera incontournable, pour prendre un mot galvaudé, dans l'élaboration du droit administratif français.